Michel de Montaigne, Les Essais, Livre 1, Chapitre 22, Sur les habitudes et le fait qu'on ne change pas facilement une loi reçue. Il me semble avoir très bien compris la force de l'habitude. Celui qui inventa ce conte, selon lequel une villageoise, ayant été habituée à caresser et à porter entre ses bras un veau depuis sa naissance, et continuant à le faire, réussit, grâce à l'accoutumance, à le porter encore quand il fut devenu grand. Car c'est en vérité une violente et traîtresse maîtresse d'école que l'habitude. Elle introduit en nous son autorité, peu à peu, à la dérober, mais par ce doux et humble commencement, l'ayant affermie et incrustée avec l'aide du temps, elle nous montre bientôt un furieux et tyrannique visage, contre lequel nous n'avons même plus la liberté de lever les yeux. Nous voyons bien qu'à tous les coups, elle enfreint les règles de la nature. L'usage, le plus puissant maître de toutes choses, Pline l'Ancien, Histoire naturelle 25.2. Là-dessus, je crois ce que dit Platon avec sa caverne dans sa République. Et je crois les médecins qui abandonnent si souvent les méthodes de leur art au profit de son autorité. Voilà un roi qui, en suivant les principes, habitua son estomac à se nourrir de poison. Albert le Grand raconte qu'une fille s'était habituée à vivre d'araignées. Et dans les Indes nouvelles, on trouva de grands peuples, en des climats très divers, qui en vivaient, en faisaient provision et même les élevaient, comme ils le faisaient aussi avec des sauterelles, des fourmis, des lézards, des chauves-souris. Un crapaud fut vendu 6 écus pendant une famine. Ils font cuire tout cela et les apprêtent avec différentes sauces. On en a trouvé d'autres encore pour qui nos viandes et nos aliments étaient mortels et vénéneux. Cicéron, Tusculane. Grande est la force de l'habitude. Les chasseurs passent leur nuit dans la neige, ils se brûlent au soleil des montagnes, et les pugilistes meurtris par le cesse ne se plaignent même pas. Cicéron, Tusculane. Pour être étranger, ces exemples ne sont pas étranges si nous considérons ce que nous supportons d'ordinaire et combien l'accoutumance hébète nos sens. Pas besoin d'aller chercher ce qu'ont dit les voisins des cataractes du Nil, ni ce que les philosophes disent de la musique céleste. On sait en effet que les corps qui tournent sur ces cercles, étant solides et polis, et venant à s'effleurer et se frotter les uns aux autres dans leur course, ne peuvent manquer de produire une merveilleuse harmonie dont les cadences et variations sont gouvernées par les changements et mouvements de la danse des astres. Il suffit de savoir que, de façon générale, les oreilles des créatures d'ici-bas, endormies comme celles des Égyptiens par la permanence de ce son, ne peuvent plus le percevoir, si grand qu'il soit. Les maréchaux ferrants, les meuniers, les armuriers ne pourraient résister au bruit qu'ils subissent s'ils les percevaient comme nous. Mon pourpoint parfumé est agréable à mon nez, mais si je le porte 3 jours de suite, il ne l'est plus que pour le nez des chants de l'assistance. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que malgré de longs intervalles et de périodes d'interruption, l'accoutumance puisse quand même marquer nos sens de son empreinte, comme le savent les voisins des clochers. Je loge chez moi dans une tour où, au lever du jour et au couvre-feu, une très grosse cloche sonne tous les jours l'Ave Maria. Ce tintamarre ébranle ma tour elle-même. Les premiers temps, je le trouvais insupportable. Mais en peu de temps, je m'y suis fait, au point que je l'entends maintenant sans en être gêné, et même souvent sans qu'il me réveille. Platon gronda un enfant qui jouait aux noix. L'enfant répondit « Oh, tu me grondes pour peu de choses !» L'accoutumance, répliqua Platon, n'est pas une chose de peu d'importance. Je trouve que nos plus grands vices s'inscrivent en nous dès notre plus tendre enfance et que la formation de notre caractère est entre les mains des nourrices. C'est une distraction pour les mères de voir un enfant tordre le cou à un poulet et s'amuser à torturer un chien ou un chat. Et c'est un sot, le père qui voit son fils frapper injustement un paysan ou un laquais, et qui considère cela comme l'heureux augure d'un fort caractère, ou qui voit un signe de finesse dans le fait qu'il dupe son camarade par quelque méchante et déloyale tromperie. Car ce sont là les vraies semences et racines de la cruauté, de la tyrannie et de la trahison. Elles commencent à germer, puis elles poussent ensuite vigoureusement et prospèrent enfin par les soins de l'habitude. Et c'est une éducation très dangereuse que d'excuser ces détestables dispositions par le jeune âge et le caractère bénin des faits. Premièrement parce que c'est la nature qui parle, et que sa voix est d'autant plus pure et plus naïve qu'elle est plus fragile et plus neuve. Deuxièmement, la laideur de la tromperie n'a rien à voir avec le fait qu'il s'agit d'argent ou de haricots, elle réside en elle-même. Je trouve bien plus juste de conclure ainsi. Pourquoi ne tricherait-il pas avec de l'argent puisqu'il triche avec des haricots, plutôt que de dire comme souvent « Oh, il ne triche qu'avec des haricots, il ne ferait pas avec de l'argent ». Il faut apprendre soigneusement aux enfants à haïr les vices dans leur nature même, leur en apprendre la laideur foncière, de façon à ce qu'ils ne les fuient pas seulement dans leurs conséquences, mais surtout dans leur cœur. Il faut que la pensée même leur en soit odieuse, quel que soit le masque dont ils s'affublent. J'ai toujours voulu, dans mon enfance, marcher droit sur les grands chemins, et toujours répugné à la tricherie ou à la ruse dans mes jeux. Et comme il ne faut pas considérer les jeux des enfants comme des jeux, mais comme leurs actions les plus sérieuses, il n'est de distraction si légère à laquelle je n'apporte aujourd'hui intérieurement, par une propension naturelle et sans avoir à m'y appliquer, une très grande répugnance à tricher. Je joue aux cartes contre ma femme et ma fille pour quelques sous, et qu'il me soit indifférent de gagner ou de perdre, ou qu'au contraire je me prenne au jeu, j'en tiens le compte comme si c'était des écus. En tout et partout, mes yeux suffisent à me maintenir dans mon devoir. Il n'y a rien qui me surveille d'aussi près et que je respecte plus. Je viens de voir chez moi un petit homme natif de Nantes, né sans bras, qui a si bien entraîné ses pieds pour le service, que lui devaient les mains, qu'ils en ont en vérité à moitié oublié leur fonction naturelle. D'ailleurs, il les nomme ses mains. Il coupe, il charge un pistolet, le décharge, il enfile son aiguille, il coud, il écrit, il ôte son bonnet, se peigne, joue aux cartes et aux dés, et les agite avec autant de dextérité que n'importe qui d'autre. L'argent que je lui ai donné, il l'a pris dans son pied, comme nous le faisons avec notre main. J'en ai vu un autre, quand j'étais enfant, qui maniait une épée à deux mains et une hallebarde en les tenant avec le pli de son cou, faute de main. Il les jetait en l'air et les rattrapait, lançait une dague et faisait claquer un fouet aussi bien qu'un charretier de France. Mais on voit bien les effets de l'habitude aux étranges impressions qu'elle laisse en nos esprits, où elle ne trouve pas beaucoup de résistance. Que ne peut-elle sur nos jugements et nos croyances ? Je laisse à part la grossièreté importune de nos religions, dont tant de grandes nations et tant de grands personnages se sont enivrés, car ce domaine, échappant à notre raison humaine, il est plus excusable de s'y perdre si l'on n'y est pas spécialement éclairé par la faveur divine. Mais à part cela, y a-t-il une opinion, si bizarre soit-elle, que l'habitude n'est enracinée et établie par des lois dans les régions où bon lui a semblé ? Aussi est-elle juste, cette ancienne exclamation de Cicéron ? N'est-il pas honte pour un physicien dont le rôle est d'observer et de scruter la nature, de demander à des esprits prévenus par la coutume un témoignage sur la vérité ? Je pense qu'il n'apparaît dans l'imagination de l'homme aucune idée, si folle soit-elle, qui n'ait d'exemple dans l'usage courant et que par conséquent notre raison n'éteigne ni ne fonde. Il y a des peuples où l'on tourne le dos à celui que l'on salue, où l'on ne regarde jamais celui qu'on veut honorer. Il en est où, quand le roi crache, la plus favorite des dames de sa cour tend la main. Et dans une autre nation, les personnages les plus en vue qui l'entourent se baissent à terre pour ramasser son ordure dans un linge. Prenons ici la place pour introduire un récit. Un gentilhomme français se mouchait toujours avec la main, chose très contraire à nos usages. Se défendant sur ce point, et il était réputé pour ses plaisanteries, il me demanda quel privilège pouvait bien avoir ce sale excrément pour qu'on lui fournisse un beau linge délicat pour le recevoir, et qui plus est pour l'empaqueter et le serrer sur nous. Que cela devait causer plus de dégoût que de le voir déverser n'importe où, comme nous le faisons pour nos autres excréments. J'ai trouvé qu'il ne parlait pas du tout sans raison. L'habitude m'avait ôté la possibilité de me rendre compte de cette bizarrerie, alors que nous nous trouvons pourtant si laides les bizarreries quand elles nous viennent d'un autre pays. Les miracles viennent de l'ignorance en laquelle nous sommes de la nature, et non de la nature elle-même. L'accoutumance émousse notre jugement. Les barbares ne sont en rien plus étonnants pour nous que nous pour eux. Ils n'ont pas de raison de l'être, comme chacun l'admettrait, après s'être promené dans ces exemples venus de loin, s'ils savaient se pencher sur les siens propres et les examiner avec soin. La raison humaine est une décoction faite à partir du poids sensiblement égal donné à toutes nos opinions et nos mœurs, de quelque forme qu'elles soient. Sa matière est infinie, et infinie sa diversité. Mais je reviens à mon propos. Il est des peuples où, sauf sa femme et ses enfants, personne ne parle au roi que par un intermédiaire. Dans une même nation, les vierges montrent leur sexe à découvert, et les mariés le couvrent et le cachent soigneusement. À cela, une autre coutume ailleurs offre quelques relations. La chasteté n'y est prisée que pour le service du mariage, car les filles peuvent se donner librement, et si elles sont engrossées, se faire avorter avec les médicaments appropriés au vu de tout un chacun. Et d'ailleurs, si c'est un marchand qui se marie, tous les marchands invités à la noce couchent avec l'épouse avant lui. Et plus ils sont nombreux, plus elle en tire d'honneur et de réputation, de robustesse et de capacité. Si un officier se marie, il en va de même. Et de même si c'est un noble, et ainsi des autres, sauf si c'est un laboureur ou quelqu'un du bas peuple, car alors c'est au seigneur de le faire. Et on ne manque pas pourtant de recommander strictement la fidélité pendant le mariage. Il est des peuples où il y a des bordels publics pour les hommes et même des mariages entre eux, où les femmes vont à la guerre avec leurs maris et ont leur place non seulement au combat mais au commandement, où l'on porte non seulement des bagues au nez, aux lèvres, aux joues et aux orteils, mais aussi des baguettes d'or fort lourdes au travers des tétons et des fesses, où en mangeant on s'essuie les doigts aux cuisses, aux bourses et à la plante des pieds, où les enfants ne sont pas héritiers, mais les frères et les neveux. Et ailleurs, les neveux seulement, sauf pour la concession de succession du prince, ou pour régler la communauté des biens qui est l'usage, certains magistrats souverains ont la charge collective de la culture des terres et de la distribution des fruits selon les besoins de chacun, où l'on pleure la mort des enfants et l'on fête celle des vieillards, où les hommes couchent à 10 ou 12 ensemble dans le même lit avec leurs femmes, où les femmes qui perdent leur mari par mort violente peuvent se remarier et les autres non, où l'on a si peu d'estime pour la condition des femmes qu'on tue les filles à la naissance et que l'on achète des femmes au peuple voisin en cas de besoin, où les maris peuvent répudier leurs femmes sans alléguer aucun motif, et les femmes ne peuvent quitter leur mari pour quelque raison que ce soit, où les maris ont le droit de les vendre si elles sont stériles, où les gens font cuire puis piler le corps du trépassé jusqu'à ce qu'il soit réduit en une sorte de bouillie qu'ils mélangent alors à leur vin et qu'ils boivent, où la plus désirable des sépultures consiste à être mangée par les chiens, ou ailleurs par des oiseaux. Des peuples où l'on croit que les âmes heureuses vivent en toute liberté, dans des jardins délicieux, pourvus de toutes sortes d'agréments, et que ce sont elles qui produisent l'écho que nous entendons. Où les hommes combattent dans l'eau et tirent droit du but des flèches avec leurs arcs tout en nageant. Où, pour signe de suggestion, il faut hausser les épaules et baisser la tête, et se déchausser quand on entre dans l'appartement du roi. Où les eunuques qui gardent les religieuses en ont plus le nez et les lèvres coupées pour qu'ils ne puissent même pas être aimés, et où les prêtres se crèvent les yeux pour s'aboucher avec les démons et recevoir leurs oracles, où chacun fait un dieu de ce qui lui plaît, le chasseur d'un lion ou d'un renard, le pêcheur de quelques poissons, et où chaque action ou passion humaine devient une idole, où le soleil, la lune et la terre sont les dieux principaux. Pour prêter serment, on touche la terre en regardant le soleil. Où la viande et le poisson se mangent crus. Des peuples où le grand serment se fait en jurant par le nom d'un trépassé qui a joui d'une bonne réputation. Par le pays, en posant la main sur sa tombe. Où les étrennes que le roi envoie chaque année à ses vassaux, c'est du feu, et quand on la porte, on éteint tous les feux anciens, et à ce nouveau feu, les peuples voisins sont tenus de venir prendre de quoi allumer le leur, chacun pour soi, sous peine de crime de lèse-majesté. Où, quand le roi abandonne sa charge pour se consacrer à la dévotion, ce qui arrive souvent, son successeur est obligé d'en faire autant, et passe la royauté au troisième successeur, où l'on change la forme des institutions selon que les affaires l'exigent. On dépose le roi quand cela semble bon de le faire, et on le remplace par des anciens à la tête de l'État, ou encore on abandonne le pouvoir entre les mains du peuple. Des peuples où les hommes et les femmes sont circoncis et baptisés de la même façon, où le soldat, qui, après un ou plusieurs combats, parvient à présenter à son roi 7 têtes d'ennemis, est anobli, où l'on vit avec l'opinion si rare et si peu sociable de la mortalité des âmes, où les femmes accouchent sans plainte et sans effroi, où les femmes portent à l'une et l'autre jambe des jambières de cuivre, et où, si un poule est mort, elles sont tenues par un devoir de magnanimité de le mordre à leur tour, où elles n'osent pas prendre d'époux avant d'avoir offert leur pucelage à leur roi, s'il en veut, où l'on salue en mettant le doigt à terre, puis en le levant vers le ciel, où les hommes portent les charges sur la tête et les femmes sur les épaules, où elles pissent debout et les hommes accroupis, où ils envoient leur sang en signe d'amitié et brûlent de l'encens pour les hommes qu'ils veulent honorer comme pour leur Dieu. Où la parenté est interdite dans les mariages, non seulement jusqu'au 4e degré, mais n'est licite à aucun degré. Où les enfants sont pendant 4 ans nourrices et souvent 12, alors que dans le même pays, on juge mortel de donner à téter à l'enfant le premier jour. Où les pères ont la charge du châtiment des garçons et les mères à part celui des filles. Et ce châtiment consiste à les enfumer, pendus par les pieds. Un peuple où l'on fait circoncire les femmes, où l'on mange toutes sortes d'herbes sans autre possibilité que de refuser celles qui leur semblent avoir une mauvaise odeur. Où tout est ouvert, les maisons, pour belles et riches qu'elles soient, n'ont pas de porte, ni de fenêtres, ni de coffres qui puissent être fermés, où les voleurs sont punis 2 fois plus qu'ailleurs, où l'on tue les poux avec les dents comme les macaques, et trouve horrible de les voir écrasés avec les ongles. On ne se coupe la vie durant ni poils ni ongles. Ailleurs, on ne coupe que les ongles de la main droite, alors qu'on laisse pousser ceux de la gauche, comme un signe de distinction. Ou on laisse pousser les cheveux du côté droit, et on maintiendra l'autre côté. Et dans les provinces voisines, celles-ci laissent pousser les cheveux sur le devant, l'autre à l'arrière, et on rase le côté opposé. Voici un peuple où les pères prêtent leurs enfants et les maris leurs femmes pour leurs hôtes, mais en les faisant payer. Où l'on peut honnêtement faire des enfants à sa mère, où les pères peuvent avoir concert charnel avec leurs filles et avec leurs fils. Où dans les assemblées qui se tiennent pour festoyer, on se prête mutuellement des enfants sans souci de la parenté. Ici, on vit de chair humaine. Là, c'est un signe de piété que de tuer son père à un certain âge. Ailleurs, les pères désignent, pendant qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère, les enfants qu'ils souhaitent nourrir et conserver, ceux qu'ils veulent abandonner et tuer. Là, les vieux maris mettent leurs femmes au service de la jeunesse, et ailleurs, elles sont communes à tous sans qu'il y ait péché. Et même dans certains pays, elles portent comme une marque d'honneur sur le bord de leur robe autant de belles houppes à franges qu'elles ont connues d'hommes. La coutume n'a-t-elle pas aussi fait une république de femmes? Ne leur a-t-elle pas mis les armes à la main, fait lever des armées et livrer des batailles? Et ce que toute la philosophie ne peut parvenir à faire entrer dans la tête des plus sages, la coutume ne l'enseigne-t-elle pas par sa seule prescription aux plus grossiers, les gens du peuple? Car on connaît des nations entières où non seulement la mort était méprisée, mais fêtée, où les enfants de 7 ans supportaient d'être fouettés jusqu'à la mort sans que leur visage en fût troublé, où la richesse était tenue dans un tel mépris que le plus misérable citoyen de la ville n'eût pas daigné se baisser pour ramasser une bourse pleine. Et nous connaissons des régions très fertiles en toutes sortes de vivres, où pourtant les mets les plus ordinaires et les plus savoureux étaient le pain, le cresson et l'eau. La coutume ne fit-elle pas encore ce miracle à Kyo? Qu'il s'y passa 100 ans que de mémoire d'homme, fille ni femme, n'ait failli à son honneur. En somme, à mon avis, il n'est rien que la coutume ne fasse ou ne puisse faire. Et c'est à juste titre que Pindare l'appelle à ce qu'on dit la reine et l'impératrice du monde. Celui-ci qu'on rencontra en train de battre son père répondit que c'était la coutume de sa maison, que son père avait ainsi battu son aïeul son bisaïeul. Et montrant son fils, il dit « Oh, celui-là me battra quand il aura atteint mon âge. » Et ce père, que son fils tiraillait et malmenait au milieu de la rue, lui ordonna de s'arrêter à une certaine porte, car lui n'avait traîné son père que jusque-là, et c'était la borne des mauvais traitements héréditaires, ce que les enfants avaient pour coutume de faire subir à leur père dans leur famille. Par tradition, dit Aristote, aussi souvent que par maladie, des femmes s'arrachent les cheveux, rongent leurs ongles, mangent des charbons et de la terre. Et plus par coutume que par nature, les hommes ont des relations avec les hommes. Les lois de la conscience, dont nous disons qu'elles naissent de la nature, naissent de la tradition. Chacun vénère intérieurement les opinions et les mœurs reçues et acceptées autour de lui, et il ne peut s'en détacher sans remords, ni s'y appliquer sans les approuver. Quand les Crétois, dans les temps anciens, voulaient maudire quelqu'un, ils priaient les dieux de lui faire contacter quelques mauvaises habitudes. Mais le principal effet de la puissance de la tradition, c'est qu'elle nous saisit et nous enserre de telle façon que nous avons toutes les peines du monde à nous en dégager et à rentrer en nous-mêmes pour réfléchir et discuter ce qu'elle nous interpose. En fait, parce que nous les absorbons avec notre lait à la naissance, et que le monde se présente à nous sous cet aspect la première fois que nous le voyons, il semble que nous soyons faits pour voir les choses comme cela. Et les opinions courantes que nous trouvons en vigueur autour de nous, infusées en notre esprit par la semence de nos pères, nous semblent de ce fait naturelles et universelles. Il résulte de tout cela que ce qui est en dehors des limites de la coutume, on croit que c'est en dehors des limites de la raison. Dieu sait combien cette idée est déraisonnable le plus souvent. Si, comme nous qui nous étudions, avons appris à le faire, chacun de ceux qui entendent une pensée juste cherchait aussitôt en quoi elle le concerne lui-même, il comprendrait que cette pensée n'est pas tout en un bonbon courant un bon coup de fouet à la bêtise ordinaire de son jugement. Mais on reçoit les avis de la vérité, ses préceptes, comme s'ils étaient adressés à tous et jamais à soi-même. Au lieu de les appliquer à ses propres comportements, on les enfouit dans sa mémoire, bêtement et inutilement. Mais revenons encore au pouvoir souverain de la coutume. Les peuples, élevés dans la liberté et habitués à se commander eux-mêmes, estiment toute autre forme de gouvernement monstrueuse et contre nature. Ceux qui sont formés dans l'idée de la monarchie pensent de même. Et quelque facilité que le sort leur offre pour un changement, alors même qu'ils se sont libérés avec bien des difficultés de la contrainte importune d'un maître, ils s'empressent aussitôt d'en réinstaller un nouveau, avec les mêmes difficultés. C'est qu'ils ne peuvent pas se résoudre à prendre en haine l'autorité elle-même. C'est par l'entremise de la tradition que chacun est content du lieu où la nature l'a placé. Les sauvages d'Écosse n'ont que faire de la Touraine ni les sites de la Thessalie. Darius demanda à des Grecs pour combien ils accepteraient d'adopter la coutume des Indes et manger leur père mort, car c'était leur usage et ils estimaient ne pas pouvoir leur trouver de meilleure sépulture qu'en eux-mêmes. Oh, ils lui répondirent qu'ils ne le feraient pour rien au monde. Mais ayant aussi tenté de convaincre les Indiens d'abandonner leur coutume et d'adopter celle des Grecs qui était de brûler le corps de leur père, oh, il leur fit encore plus horreur. Chacun réagit ainsi parce que l'usage nous dérobe le vrai visage des choses. Il n'est rien de si grand et de si admirable d'abord qui peu à peu ne cesse de nous étonner. Lucrèce. Autrefois, ayant à faire valoir un de nos usages qui faisait autorité bien au-delà de nous, et ne voulant pas, comme on le fait en général, l'établir seulement par la force des lois et des exemples, mais allant rechercher ses origines mêmes, je découvris que son fondement était si peu assuré qu'il s'en fallut de peu que je m'en détache moi-même, moi, qui avais pour tâche de le renforcer chez les autres. C'est par ce genre de recette qu'il estime fondamentale et souveraine que Platon entreprend de chasser les amours perverses et contre-nature de son temps, à savoir que l'opinion publique les condamne et que les poètes et tout un chacun en dispiquent pendre. Par ce moyen, les plus belles filles n'attireront plus l'amour de leur père, ni les frères, si beaux soient-ils, l'amour de leur sœur. Car les fables de Thieste, d'Édipe et de Macarée instilleront par la beauté même de leur vers cette utile répugnance dans la tendre cervelle des enfants. C'est vrai, la pudicité est une belle vertu dont on connaît assez l'utilité, Mais la traiter, la faire valoir comme foncièrement naturelle, est aussi malaisée qu'il est aisé de la faire valoir selon l'usage, les lois et les préceptes moraux. Ces premiers et universels fondements sont difficiles à examiner à fond. Nos maîtres les parcourent superficiellement, n'osent pas y regarder de près, s'empressent plutôt de se placer sous la protection de la coutume, et là gonflent leurs plumes et triomphent à bon compte. Ceux qui ne veulent pas se laisser entraîner loin de la source originelle se trompent encore plus et se voient contraints d'adopter des opinions barbares, comme Chrysippe, qui mit un peu partout dans ses écrits le peu de cas qu'il faisait des unions incestueuses, quelles qu'elles soient. Celui qui voudra se détacher du tenace préjugé de la coutume trouvera que bien des choses reçues comme indiscutables n'ont cependant de fondement que dans la barbe blanche et les rides de l'usage qui les accompagne. Une fois ce masque arraché et les choses amenées à la lumière de la vérité et de la raison, il sentira son jugement tout bouleversé et pourtant ramené à des bases plus solides. Par exemple, je lui demanderai alors s'il peut y avoir quelque chose de plus étrange que de voir un peuple obligé de suivre des lois auxquelles il n'a jamais rien compris, de le voir soumis en toutes ses affaires domestiques, mariages, donations, testaments, ventes et achats, à des règles qu'il ne peut connaître parce qu'elles ne sont ni écrites ni publiées dans sa langue et dont il est de ce fait contraint par nécessité d'acheter l'interprétation à l'usage. On ne suit pas en cela l'ingénieuse idée d'Isocrate qui conseillait à son roi de rendre libre, franche de taxes et lucrative, les négociations commerciales entre ses sujets et de rendre onéreuses, en les frappant de lourdes taxes, leurs contestations et querelles. Au contraire, on suit là une monstrueuse tendance qui aboutit à mettre sur le marché la raison elle-même et à donner aux lois un cours comme pour les marchandises. Je sais gré au sort de ce que, selon nos historiens, ce fut un gentilhomme gascon de mon pays qui, le premier, s'opposa à Charlemagne qui voulait nous donner des lois latines et impériales. Qu'y a-t-il de plus barbare que de voir une nation où, par coutume légale, la charge de juger se vend, où les jugements se paient contre argent comptant, où la justice est refusée en toute légalité à celui qui n'a pas les moyens de la payer, et où cette marchandise a tellement d'importance qu'il se constitue dans la société un quatrième état fait de ceux qui savent manipuler les procès pour s'ajouter aux trois autres traditionnels, l'Église, la noblesse et le peuple, et où ce quatrième, ayant la charge des lois et une autorité souveraine sur les biens et les vies, fasse un corps à part de celui de la noblesse. Il y a de ce fait dualité de lois, celle de l'honneur et celle de la justice, qui sont opposées en bien des points. Par celle-là, condamne aussi rigoureusement un démenti accepté que celle-ci un démenti vengé par les armes. Dans un cas, celui qui porte les armes et qui subit une injure sans broncher est considéré comme déshonoré et indigne de la noblesse, tandis que dans l'autre, celui qui a une charge civile et tire vengeance de l'injure subie encourt la peine capitale. Celui qui s'adresse aux lois pour demander raison d'une offense faite à son honneur se déshonore, et celui qui ne s'y adresse est puni et châtié au nom de la loi. De ces deux corps si différents et se rapportant pourtant à un seul et même chef, le roi, ceux-là ont en charge la paix et ceux-ci la guerre, ceux-là le gain et ceux-ci l'honneur, ceux-là le savoir, ceux-là la valeur militaire, ceux-là la parole, ceux-ci l'action, ceux-là la justice, ceux-ci la vaillance, ceux-là la raison, ceux-ci la force, ceux-là la robe longue, ceux-ci la courte. Quant aux choses de moindre importance, comme les vêtements, À celui qui voudrait les ramener à leur but véritable, qui est le service et la commodité du corps, et d'où ils tirent leur grâce et leur agrément originel, j'indiquerai, comme les plus extravagants qui se puissent imaginer, nos bonnets carrés, cette longue queue de velours plissé qui pend aux têtes de nos femmes avec son attirail bigarré, et cette vaine et inutile pièce moulant un membre que nous ne pouvons pas décemment nommer, mais dont nous faisons étalage et ostentation en public. Ces considérations ne détournent pourtant pas un homme sensé de suivre le style ordinaire. Mais à l'inverse, il me semble que toutes les façons de faire trop extravagantes ou originales relèvent plus de la folie ou de l'affectation ambitieuse que du bon sens. Le sage, s'il doit isoler intérieurement son esprit de la foule, pour le maintenir capable de juger librement des choses, à l'extérieur, par contre, doit suivre entièrement les formes et les usages reçus. La société n'a que faire de ce que nous pensons. Mais le reste, c'est-à-dire nos actions, notre travail, nos situations et notre vie privée, il faut accorder et adapter cela à son service et aux opinions communes, comme le fit ce bon et grand Socrate, qui refusa de sauver sa vie en désobéissant à l'autorité publique, même très injuste, voire inique. Car c'est la règle des règles, la loi générale des lois. Chacun doit observer celle du lieu où il se trouve. Voici les choses d'une autre cuvée. Il n'est pas du tout certain qu'il y ait véritablement autant de profit à changer une loi reçue, quelle qu'elle soit, qu'il y a d'inconvénients à l'ébranler. C'est qu'une organisation politique est comme un bâtiment fait de diverses pièces jointes ensemble de telle façon qu'il est impossible d'en faire bouger une sans que tout l'ensemble ne s'en ressente. Le législateur des Turiens ordonna que quiconque voudrait abolir une loi ancienne ou instituer une nouvelle devrait se présenter au peuple la corde au cou afin que, si la nouveauté n'était pas approuvée de chacun, il fut immédiatement étranglé, et celui de Lacédémone passa sa vie à obtenir de ses concitoyens la promesse ferme qu'il n'enfreindrait aucune de ses ordonnances. L'effort qui coupa si brutalement les deux cordes que Phrynis avait ajoutées à la musique ne se mit pas en peine de savoir si elle s'en trouvait améliorée ou si les accords en étaient plus pleins. Il lui suffisait, pour les condamner, que cela constitue une altération de l'ancienne. C'est ce que signifiait le symbole de l'épée rouillée de la justice de Marseille. J'ai du dégoût envers la nouveauté, quelque visage qu'elle ait, et j'ai de bonnes raisons pour cela, car j'en ai vu des effets très dommageables. Celui et celle qui nous accable depuis tant d'années n'est pas responsable de tout, mais on peut dire avec vraisemblance que, de façon fortuite, elle a tout produit et engendré, y compris les maux et les ruines qui se font sans elle et contre elle. C'est à elle de s'en blâmer. Et là, ce sont mes propres traits qui ont fait mes blessures. Ceux qui ébranlent un état sont généralement les premiers à être engloutis dans sa ruine. Le bénéfice du trouble ne profite guère à celui qui l'a initié. Il agite et brouille l'eau pour d'autres pécheurs. L'unité et la structure de la monarchie, ce grand bâtiment, ayant été disloqué et décomposé, notamment sur ses vieux jours par cette nouveauté, offre à l'envie des ouvertures et des entrées à de semblables dommages. La majesté royale s'abaisse plus difficilement du sommet au milieu qu'elle ne tombe du milieu au fond. Mais si les inventeurs sont plus pernicieux, les imitateurs sont plus vicieux, car ils suivent des exemples dont ils ont pourtant ressenti et puni l'horreur et le mal. Et s'il y a quelques degrés d'honneur, même quand on fait le mal, c'est aux autres et non à eux-mêmes que revient la gloire de l'invention et le courage du premier effort. toutes sortes de désordres nouveaux puissent commodément dans cette source première et féconde, et y trouvent les formes et les modèles qui permettent de troubler la société. On peut trouver dans nos lois elles-mêmes, faites pour porter remède à ce premier mal, la méthode à employer et le prétexte nécessaire pour réaliser toutes sortes de mauvaises entreprises. Il nous advient ce que Thucydide dit des guerres civiles de son temps, que pour atténuer les vices publics, on leur donnait des noms nouveaux et plus doux, comme pour les excuser, en édulcorant et en détournant leurs vrais titres. On fait cela sous prétexte de réformer nos consciences et nos croyances. Le prétexte est honnête, mais le meilleur des prétextes de nouveauté est dangereux. Tant il est vrai qu'aucun changement apporté aux anciennes institutions ne vaut d'être approuvé, dit Tite-Live. Il me semble donc, pour parler franchement, qu'il faut un grand orgueil et bien de la présomption pour attacher de la valeur à nos opinions au point que, pour les faire triompher, il faille renverser la paix publique et introduire inévitablement tant de malheurs. La terrible corruption des mœurs que suscitent les guerres civiles, les bouleversements complets des choses fondamentales et tout cela dans notre propre pays. N'est-ce pas un mauvais calcul que de promouvoir tant de vices certains et connus pour combattre des erreurs contestées et ou discutables? Y a-t-il des vices d'une espèce pire que ceux qui choquent notre conscience et nos sentiments naturels? Le Sénat osa faire cette concession lors du différend qu'il opposa au peuple sur la question du ministère religieux et déclara que cela concernait plus les dieux qu'eux-mêmes, que ces dieux veilleraient à ce que leur propre culte ne soit pas profané. C'est dans le même sens qu'avait répondu l'oracle à ceux de Delphes à propos de la guerre contre les Mèdes. Craignant l'invasion des Perses, ils demandèrent aux dieux ce qu'ils devaient faire des trésors sacrés de son temple, les cacher ou les emporter. Il leur répondit qu'ils ne touchent à rien et s'occupent d'eux-mêmes, car il était bien capable de s'occuper de ses propres affaires. La religion chrétienne présente toutes les marques d'une extrême justice et d'une extrême utilité, mais nulle qui soit plus évidente que la ferme recommandation de l'obéissance à l'autorité et du maintien de l'ordre établi. Quel merveilleux exemple nous en a donné la sagesse divine ! Pour assurer le salut du genre humain et remporter une glorieuse victoire contre la mort et le péché, elle n'a pourtant voulu agir qu'en accord avec notre système politique et a soumis son progrès et la poursuite de son but si noble et salutaire à l'aveuglement et à l'injustice de nos coutumes et usages. Elle a laissé couler le sang innocent de tant d'élus, ses favoris, et accepté de passer tant d'années à mûrir cet inestimable fruit, notre salut. Il y a une grande différence entre la cause de celui qui suit les usages et les lois de son pays et celle de celui qui entreprend de les manipuler et de les changer. Celui-là invoque comme excuse la simplicité de l'obéissance et l'exemple. Quoi qu'il fasse, cela ne peut être un mal, tout au plus un malheur. Qui pourrait en effet ne pas respecter une antiquité qui nous a été conservée et prouvée par les plus éclatants témoignages, Cicéron de la divination. Et en outre, comme dit Isocrate, dans la modération, il y a plus d'insuffisance que d'excès. Celui qui veut tout changer se trouve dans une situation bien plus difficile, car qui se mêle de choisir et de changer s'arroge l'autorité de juger et doit faire la preuve qu'il est capable de voir le fautif dans ce qu'il chasse comme le bien dans ce qu'il introduit. Voici la considération fort simple qui m'a conforté dans ma position et réfréné ma jeunesse même, plus téméraire pourtant. Je ne dois pas charger mes épaules d'un poids aussi lourd que celui de parler au nom d'une connaissance si importante, et ne pas me risquer en celle-ci où je n'oserais le faire en toute sérénité, dans les domaines où j'ai été instruit, et dans lesquels la témérité de jugement ne cause pas de préjudice. Car il me semble très malvenu de vouloir subordonner les lois et usages publics et stables à l'instabilité de la fantaisie individuelle. Car la raison individuelle n'a de valeur qu'individuelle. Et entreprendre sur les lois divines ce que nulle société ne supporterait pour les lois civiles. Même si la raison humaine a bien plus de rapport avec ces dernières, elle demeure cependant pleinement juge de leurs juges. Et leur connaissance intime doit servir à expliquer et étendre l'usage qui en a été reçu, non à le détourner et en proposer un autre. Si parfois la providence divine a transgressé les lois auxquelles elle nous a astreints, ce n'est pas pour nous en distancer. Ce sont des interventions de sa propre main qu'il nous faut, non pas imiter mais admirer. Des exemples extraordinaires frappés au coin de sa volonté expresse, comme les miracles qu'elle nous fournit pour témoignage de sa toute-puissance, et qui se situent bien au-delà de notre propre capacité. Et c'est folie et impiété que de chercher à le reproduire. Nous ne devons pas les suivre, mais les contempler, frappés d'admiration. Acte qui relève de son rôle, et non d'une autre. Cotta déclare bien opportunément à ce sujet: en matière de religion, mes autorités sont Titus Concanius, Publius Scipio, Publius Scaevola, les grands pontifes, non Zénon, Cléante ou Chrysippe. Dieu le sait, dans la querelle qui nous oppose en ce moment, et où il y a 100 articles de foi à enlever et remplacer, graves et profonds, combien sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir précisément examiné les raisons profondes de l'un et l'autre parti? Leur nombre, s'il en est un, ne serait guère en mesure de nous troubler. Mais la foule des autres, où va-t-elle? Sous quelle bannière se range-t-elle de son côté? Il advient de leurs remèdes comme des autres médicaments faibles et mal appliqués. Ce qu'il devrait purger en nous, il l'échauffe, l'exaspère et l'aigrit par le conflit, et il nous reste dans le corps. Sa faiblesse n'a pas pu nous purger, mais nous a cependant affaiblis, de telle sorte que nous ne pouvons pas nous en débarrasser non plus, et que nous récoltons de son intervention que des souffrances prolongées et intestines. Toujours est-il que le sort, dont l'autorité est toujours supérieure à celle de mes discours, nous présente parfois la nécessité comme si urgente qu'il faut bien que les lois lui accordent une place. Et quand on résiste au développement d'une innovation introduite de force, se tenir en tout et partout réservé et respectueux contre ceux qui agissent en toute liberté, dont les desseins sont par là susceptibles d'être favorisés, et qui n'ont d'autres lois ni d'autres règles que d'agir à leur avantage, c'est là une dangereuse obligation et un combat inégal. Se fier à un perfide, c'est lui donner les moyens de nuire. Sénèque. D'autant plus que la règle ordinaire, dans un état en bonne santé, ne propose rien pour ces accidents extraordinaires. Elle présuppose un corps stable dans ses principaux organes et services et un consentement commun à l'observation de ses lois et à leur obéissance. Le comportement légitime est un comportement calme, pesant et contraint, qui n'est pas de nature à tenir bon devant un comportement libre et effréné. On sait que l'on reproche encore à ces deux grands personnages, Octavius et Caton, d'avoir, pendant les guerres civiles de Sylla et de César, laissé courir les plus grands dangers à leur patrie, plutôt que de la secourir aux dépens de ses lois et en modifiant l'ordre des choses. Car en vérité, à la dernière extrémité, quand il n'y a plus moyen de résister, Il serait probablement plus sage de baisser la tête et de supporter les coups que de s'obstiner au-delà du possible à ne rien lâcher et donner occasion ainsi à la violence de tout fouler aux pieds. Il vaudrait mieux faire vouloir aux lois ce qu'elles peuvent faire, puisqu'elles ne peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est ce que fit celui qui ordonna qu'elle fût suspendue 24 heures, celui qui changea pour cette fois-là un jour du calendrier, et cet autre qui du mois de juin fit un second mois de mai. Les Lacédémoniens eux-mêmes, pourtant si scrupuleux à respecter les lois de leur pays, se trouvant gênés par la loi qui défendait d'élire deux fois amiral la même personne, alors que leurs affaires requéraient de toute nécessité que Lysandre prît de nouveau cette charge, nommèrent en effet un certain Aracus comme amiral, mais Lysandre surintendant de la marine, et ils usèrent encore d'une semblable subtilité quand ils envoyèrent un de leurs ambassadeurs devant les Athéniens pour obtenir le changement d'un règlement quelconque. Périclès, alléguant qu'il était défendu d'enlever le tableau où une loi avait été inscrite, l'ambassadeur lui conseilla de le retourner seulement, puisque cela n'était pas défendu. Et c'est de cela que Plutarque, loue Philopoémen, disant que né pour commander, il savait non seulement commander selon les lois, mais commander aux lois elles-mêmes quand la nécessité publique l'exigeait.